direct de la Voix Maltée de Chicoutimi, voici votre podcast de hockey régional par la bande.
Hey justement, ben moi je vais quand même faire le lien un petit peu avec ce que Marco vient de dire et Luc. Pourquoi est-ce qu'on fait ce podcast-là? Ben faut... Puis inquiétez-vous pas les gens là, qui nous écoutent, les gens à la maison, on parlera pas de nous autres pendant 30 minutes, là, mais c'est important de bien le mentionner parce que ça fait des mois qu'on travaille sur ce projet-là. Et l'idée derrière tout ça, c'est justement, on trouve tout le monde, pas parce que les médias de la région ne font pas leur travail, c'est pas ça, mais il y en a quand même moins qu'avant aussi. Il y a de moins en moins de stations de radio, de stations de télé régionales, etc., des journaux. Il y en a moins également. Alors, je pense qu'il y a une place, là, nos équipes régionales, on peut en parler plus, puis c'est le but. Puis les gens, maintenant, écoutent beaucoup de podcasts, de toutes sortes de choses. Alors, je pense que ça a été pas mal unanime quand on en a parlé un petit peu dans notre entourage sur les réseaux sociaux. La réponse a été excellente. Alors, on a décidé d'aller de l'avant dans le projet. Puis, on va juste un petit peu vous expliquer un petit peu tout ça. Il y a des gens qu'on va remercier. Je vais peut-être te céder la parole là-dessus, Luc, parce que c'est un projet, comme je le dis, il fait des mois qu'on travaille là-dessus. Puis, c'était moins facile qu'on pensait au départ.
Ben en fait, c'est un peu d'amener, parce qu'on avait l'opportunité, puis je l'explique souvent à les gens, de pouvoir faire ça en studio avec la super gang de Nous TV, nous offrant un clé en main. Par contre, on s'était dit qu'on voulait peut-être sortir des sentiers battus un peu, puis de faire ça différent, tu sais. Puis j'ai Daniel Giguère, qui est un des propriétaires de la Voix Maltée, demeure dans mon quartier, puis j'y en ai parlé à un moment donné, puis tout de suite, il a voulu embarquer dans ce projet-là, puis... T'sais, même avec toutes les contraintes, les gens ici, des fois, c'est pas toujours évident. C'est pas tout le monde qui vient voir le podcast, mais il a embarqué parce que pour lui, la Voix Maltée, c'est régional, puis notre podcast, c'est régional. Donc, c'est un bon fit aussi. Alex aussi de la VM. Donc, c'est tous des gens qui nous ont aidés énormément, puis qui nous aident encore, en fait. Puis, on se le cachera pas, là. On a l'air big, mais on fait pas ça pour les sous. C'est pas l'objectif. Hein? On le sait, l'objectif, on en a parlé. Donc, la VM, c'est vraiment particulier. Puis, c'est vraiment le fun quand embarque d'un projet comme ça parce que on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. En fait, c'est tout nouveau. Je pense que ça va être bon, mais ça, on le verra au fur et à mesure. Ensuite, on a la gang de Best Buy aussi.
Oui.
Best Buy qui nous fournit un montant au niveau de l'équipement parce que, veux pas, là, ça a l'air facile. Là. On a 4-5 micros, là, mais en arrière, il y a Thomas Xavier qui est là avec plusieurs équipements puis on a besoin de choses. Puis les gars là-bas chez Best Buy, c'est des gars qui connaissent ça. Donc, quand on a besoin de quelque chose, on peut facilement avoir accès à eux autres. Puis là, c'est sûr qu'on commence. Là. Fait qu'ils vont nous voir arriver dans le détour bientôt parce qu'on va vouloir d'autres choses. Mais merci à la gang de Best Buy. Panorama Media aussi. Panorama avec Michel Lavoie qui nous a aidés là-dedans. T'sais, c'est un nouveau équipement un petit peu aussi, mais plus au niveau de ses précieux conseils. Il nous a amené Thomas Xavier qui est à la technique ce soir, qui travaille comme un petit fou depuis plusieurs mois aussi. Donc, c'est tous des gens qu'on veut remercier, là, qui sans eux, probablement, qui auraient eu un podcast, mais probablement dans le fond d'un sol ou à quelque part chez vous, Jeff, dans ta chaise en haut de l'air climatisé.
C'est bien correct, serait... mais nous, c'est ce qu'on voulait faire. On voulait faire quelque chose, comme vous allez voir ce soir, comme vous allez voir dans les prochaines semaines. Alors, c'est un petit peu, je vous dirais, la genèse de tout ça.
On a des collaborateurs aussi,
oui,
bien
là, on est rendu là, effectivement, mon ami Luc. J'allais le mentionner. Maintenant, on va dire à nos gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ça va avoir l'air, autant ce soir que dans les prochaines semaines, dans les prochaines émissions. Donc, on le dit, on veut axer beaucoup sur le contenu régional et on va avoir des gens, des collaborateurs, même dès ce soir, on va en avoir deux avec nous. On va commencer tout d'abord du côté des Saguenayens, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On va avoir Jonathan Hudon. Je parlais des journaux tantôt, donc du quotidien, Jonathan Hudon qui est depuis plusieurs années pour le quotidien à la couverture des Saguenayens, entre autres. Alors, lui va collaborer quand même assez fréquemment dans notre émission. Par la suite, nous allons avoir aussi les élites de la Ligue M18-3. Toujours bizarre de dire M18.
Non, mais tu l'as eu du premier coup, Jeff.
Je l'ai eu du premier coup.
T'es pas mal le meilleur.
Aïe, aïe, aïe. Alors, on a notre ami Hugo Montreuil, qui est un jeune journaliste en devenir, je dirais, qui est étudiant, qui est très impliqué dans son milieu, qui nous a offert sa précieuse collaboration. Donc, on va l'avoir également un petit peu plus tard ce soir dans l'émission. Donc, Hugo Montreuil, qui s'occupe de la couverture des élites et du M18-3A. Ensuite, Luc, je te laisse poursuivre suivre également avec d'autres collaborateurs.
Ben, exact. Ben, peut-être au niveau plus hockey mineur, on va avoir Dominique Fortin aussi également de le Morning Mang de Kick, 95.7, qui viendra aussi à l'occasion. Il anime fan de sport maintenant, mais il m'a dit qu'il allait pouvoir venir faire son tour à l'occasion, puisque Dominique, c'est un gars très impliqué au niveau du hockey mineur aussi. Connaît beaucoup ça. On n'est pas toujours d'accord sur les sujets, mais je pense que ça va être l'occasion
il
d'en
parler. Il est capable de s'exprimer aussi, je pense.
Probablement plus que tous ici présents dans la salle. Ensuite, on a Dominique Bolduc aussi, qui est Dominique est à CKJ, qui anime l'émission dans le vestiaire. Dominique est un passionné de la Ligue nord-américaine de hockey. Donc, Dominique sera notre spécialiste au niveau des marquis. Puis, je vais te laisser présenter la dernière et non la moindre. Mais on va en avoir d'autres au courant de la saison. Mais pour l'instant, on débute avec ça. Puis, il y a sûrement des gens qui vont se rajouter au fur et à mesure. Et des invités aussi. Avant de présenter la dernière, Marco, des invités qui vont venir, des entraîneurs. Yannick Jean va venir faire son tour. Bob Desjardins va venir faire son tour. Des athlètes, des jeunes, on va, tu sais, qui sont à l'avant-plan, des fois, dans la couverture au niveau sportif, qui vont venir nous voir aussi également là, certains soirs.
On s'est dit qu'on ne pourra pas inviter tout le monde qui a un tournoi à proposer ou à faire la promotion, mais on va essayer de le faire le plus qu'on peut, surtout s'il y a quelque chose là à souligner. Puis la dernière collaboratrice, ben c'est Ariane Aubin. Ariane, là, dont on a entendu parler dans les médias, parce que Ariane est avec LUCAC, avec les Inuits de LUCAC au niveau hockey universitaire. Ariane a joué elle-même au hockey universitaire. Donc, on voulait un volet féminin à notre émission. On voulait avoir une collaboratrice. On n'avait pas vraiment d'idée. Puis là, Ariane est apparue comme ça.
Pensait à Ariane, mais on pensait pas qu'elle était revenue dans la région. Moi, tout d'un coup, boum!
Ben oui, moi, le premier, pour la connaître beaucoup, là, je pensais qu'elle était encore là, dans la dernière année de son bac. Ouais. J'ai eu la chance de jouer au hockey avec Ariane là, quelques fois dans des ligues de garage là, dans les derniers mois. Donc, Ariane a été très contente de collaborer avec nous autres. Comme je le mentionnais, peut-être le hockey féminin. Mais parfois, s'il manque un de nous autres, là, je suis persuadé qu'Ariane pourrait venir parler des sacs de la Ligue nationale sans aucun problème. Et elle est très contente, elle est en attente. Donc, dans nos prochains shows, ouais, elle va être là.
Exactement. Donc, ça fait le tour un peu de nos collaborateurs, collaboratrices, Jeff. Il y en a sans doute d'autres qui vont s'ajouter là, au courant de la saison. Vous avez des suggestions? On est là pour ça. Oui,
exactement. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Là, on est un podcast régional. On est là un petit peu pour tout le monde de la région du domaine du hockey. Donc, si vous avez des choses que vous aimeriez qu'on parle, des gens qu'on aimerait inviter, que vous aimeriez qu'on invite, n'hésitez pas à nous écrire sur la page du podcast Par la bande. Ça va nous faire plaisir de vous écouter.
Ben, tout à fait, Mathieu. Puis je vais ajouter une dernière chose avant qu'on tombe dans le vif du sujet. On a notre ami également, Olivier Hood, qui est avec nous, qui va être présent dans la plupart des émissions, qui s'occupe un petit peu des réseaux sociaux, ces choses-là. Alors, s'il y a des gens actuellement qui nous écoutent en direct, c'est possible d'envoyer des commentaires, des questions, même à ça également, sur directement suite à la diffusion là, qui est sur les pages Facebook de Par la bande et du podcast Par la bande. Donc, ça, c'est très important de le dire aussi. Je pense que ça fait pas mal le tour.
Puis on peut mentionner là-dessus, hein, on se fait un plaisir d'échanger avec les gens qui collaborent avec nous autres sur notre page Facebook. Les gens sont respectueux, puis ça va être d'autant plus le fun de continuer d'échanger suite aux discussions qu'on va avoir pendant l'émission, tout simplement.
Exact, exact.
Donc, gênez-vous pas, écrivez-nous, puis on a hâte de lire les commentaires.
Jeff, je te laisse présenter notre invité.
Excellent. Alors,
t'es arrivé sournoisement.
Alors, trêve de présentation et d'explication. Je pense que c'est important de le faire quand même pour bien situer ce qui va se passer. Et on va commencer avec notre premier segment de ce tout nouveau podcast, la première émission ce soir, avec notre ami Jonathan Hudon du journal Le Quotidien, pour nous parler évidemment des Saguenayens et de la Ligue junior majeure du Québec. La saison des Saguenayens qui vient de débuter en fin de semaine, ça s'est conclu par deux défaites quand même à bas pointage. Là, on ne peut pas dire que les Sags se sont fait sortir de la patinoire non plus. Alors, Jonathan, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Salut Jonathan. Merci d'être là en passant.
Honoré d'être le premier invité. Merci beaucoup.
Officiellement, le premier invité.
Ouais. Ouais, tu vas passer à l'histoire du podcast Par la bande.
Je vais le mettre dans mon CV.
Attends un petit peu. Attends de voir si ça va pas, Guy.
Excellent. Alors, Jonathan, j'aimerais commencer avec toi tout d'abord parce que, bon, c'est la première émission. La saison vient de débuter. Quand tu étais là tout l'été, tu as couvert tout ce qui s'est passé. Le repêchage européen, le camp d'entraînement, etc. Alors, j'aimerais ça savoir comment tu vois ça. Ce qu'on a fait du côté de Yannick Jean, on sait qu'on ne se le cache pas. Là, on est en période de reconstruction. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et je pense que Yannick Jean a été quand même assez clair là, dans ses points de presse là-dessus.
Exact. Il n'a pas hésité à dire le mot reconstruction. Là. Des fois, c'est un mot tabou un peu dans le hockey, là, mais dans ce cas-ci, là, Yannick a été clair qu'on est en mode reconstruction. Moi, je vois ça vraiment comme l'an 1 là, de la reconstruction avec 4 choix de première ronde en juillet dernier. T'sais, c'était évident qu'on recommençait la roue. La saison dernière aussi, le travail avait été amorcé. On a échangé Thomas Bellegarde, Félix Lafrance, des vétérans. Donc, le travail là, a été décollé l'an dernier. Le repêchage en juillet a quand même été un succès de ce qu'on peut voir actuellement. Il y a des petits ombres au tableau, là. Il y a des joueurs qui ne se sont pas présentés. On pourra en revenir.
Oui.
Mais c'est ça,
oui.
Le travail est bien commencé. Puis je pense que c'est l'an 1. Puis comme tu l'as dit, là, il ne faut pas s'attendre à des succès retentissants sur la glace cette saison. Mais il y a quand même quelques éléments là, qui font en sorte que la saison risque d'être intéressante à suivre pour autant pour nous, là, les médias, que même les fans.
Ben oui, parce que... Écoute, moi, je suis d'accord avec ça, une reconstruction, puis j'adore le travail que Yannick Jean fait, mais tu peux pas arriver dans le hockey, selon moi, dans le hockey junior majeur, qui c'est quand même là des grosses business. Ça roule, il y a du monde. On a des billets de saison à vendre, je pense, puis c'est intéressant, moi, personnellement, qu'on soit en reconstruction, qu'on soit premier au classement. J'aime assister aux matchs des Saguenay. Alors, je pense que c'est la même chose un petit peu pour tout le monde. Tu sais, les gars, faut pas non plus arriver, je pense, puis donner un produit qui est pas à la hauteur non plus de ce qu'on s'attend ici dans la région.
Ben, on l'a vu l'année passée, d'ailleurs, là, parce que les Sags étaient septièmes à un moment donné, un peu contre toute attente, parce que je pense que Félix Lafrance dépassait les attentes. Hein, on n'expectait pas ça, Jonathan.
Absolument
là.
Pas, puis il n'a pas connu la deuxième moitié de saison à
Bathurst
non plus. Il y avait des statistiques phénoménales qui ont permis aussi, notamment, d'aller chercher des choix de première ronde, pour surtout avec Thomas Bellegarde, mais c'est ça, Félix Lafrance a traîné le club, là, si tu peux me permettre l'expression, la demi-moitié de saison, mais le choix a été fait en début de saison qu'on allait faire des transactions, puis c'est ça, le hockey junior, tu peux pas dire on va garder nos gars parce qu'on est actuellement septième.
Pour pas gagner de toute façon. Tu gagneras pas des séries. Tu vas gagner une ronde peut-être. Là.
Exact. Puis il y a eu des équipes qui ont fait des améliorations. Là, au fait, les Saguenay auraient inévitablement descendu au classement.
Tout à fait.
Tu gagnes quoi, une ronde? Peut-être pas. Possiblement pas, moi, je pense.
Ouais.
Ça finit que t'as pas tes choix de première ronde que t'as eu en juillet. Fait.
Mais vous pensez quoi, les gars, du repêchage de Yannick Jean? On savait qu'il y a guessé sur au moins deux joueurs. Sont pas là. Est-ce qu'ils vont venir? On le sait pas. Est-ce que c'est dangereux pour l'avenir des Sags? On va être très bon dans 3-4 ans. Est-ce que ça peut être dangereux?
Moi, j'ai mon opinion là-dessus.
Ben oui, vas-y Marco.
Marco, vas-y.
non, je veux te laisser
aller.
Marco,
j'ai hâte de le dire.
Je veux te laisser aller.
C'est bien correct, on jase. Je pense pas que ça soit dangereux pour l'avenir d'équipe. C'est juste que ça retarde le cycle d'un an. T'sais, ça fait juste retarder un petit peu parce qu'au lieu d'être là à 16 ans cette année, ben s'ils viennent pas puis que c'est clair qu'ils se présentent pas, ils vont y remettre au repêchage. Ils ramassent des choix compensatoires de première ronde puis on recommence. Fait qu'on va avoir des joueurs du même âge l'an prochain de 16 ans. Dans le fond, on va avoir de nouveaux joueurs de 16 ans l'an prochain. Je sais pas de quoi a l'air le prochain repêchage, mais t'sais, on recommence puis... C'est un risque à prendre. Ça veut pas dire qu'ils viendront pas, mais c'est sûr qu'actuellement, c'est le côté plate parce qu'on parle de Xavier Veilleux et Sacha Boisvert là, pour
exact,
les gens qui
ne
savaient
ouais,
pas. Sacha Boisvert, 12e, je crois, au total.
Ouais.
Xavier Veilleux, 16e, excellent défenseur. Dans le cas de Veilleux, là, moi, je garde un espoir parce que il joue à Séminaire Saint-François dans le midget 3. Donc, il a opté pour une autre saison midget 3. M18,
son père est un ancien de l'organisation aussi. Absolument. Ça peut aider là, à prendre une décision.
Il est juste de l'autre côté. Là. Il est à 2 heures de route. Fait
qu'il
y a moyen de rester en contact avec lui. Puis moi, je pense, puis Yannick l'a dit, à cet âge-là, tu te dois d'évoluer avec les meilleurs. Là. Je disais que Xavier Veilleux, malheureusement, s'il dispute, c'est mon opinion, je me trompe peut-être, mais s'il dispute la saison complète dans le midget 3A,
perd son temps.
Je pense qu'il va plafonner un peu, c'est ça. Puis peut-être la progression va à 16 ans, là, à entre 15 et 17 ans, la progression, là, c'est une strate qui est super importante de progression. Est-ce qu'il va peut-être regretter? Je sais pas, on verra bien. Moi, je le suis, là, je le surveille avec intérêt, voir quel genre de statistiques qu'il a, quel genre de saison qu'il a, mais il ça va être... la balle est dans son camp. Là.
Moi, je pense que le plan est vraiment... de ramener ces deux gars-là dans les prochaines années. Puis, rendu dans trois ans, avoir la grosse équipe, parce qu'on se fera pas de cachette, avec les choix au repêchage qu'ils ont eu, comme Massé, Leroux, Boisvert, Cachion, le gardien de but de saison aussi.
Ruggiero,
exactement.
Boisvert débarque ici à 19 ans. Et
exact, Boisvert arrive, Veilleux arrive l'année prochaine, ils vont avoir tout un club. Là.
Mais attendez, les gars, il n'y a pas une règle dans la Ligue, donc junior majeur du Québec, qu'il faut qu'ils viennent après tant d'années, sinon on les paye ou il faut les échanger.
Bon. Il peut le garder sur sa liste ou bien il peut le remettre au repêchage, sauf que s'il ne le remet pas...
Mais il n'y a pas de date limite.
C'est ça, s'il ne le remet pas au repêchage cette année,
okay.
Ça doit être dans le repêchage.
Ça compense à
ça. C'est ça, exact.
Donc, c'est ça. Faut que tu espères forcément qu'il va venir. Faut que tu sois confiant à plus de 50%, je dirais, qu'il revienne. Sinon, effectivement, tu vas
jouer. J'imagine que Yannick a parlé aussi. Là,
ben oui,
je veux dire,
en contact constant. Sauf que Boisvert est aux États-Unis déjà.
Ouais.
Il commence son parcours dans USHL.
Ça prend des bonnes notes aussi pour être dans ce programme-là.
C'est une autre affaire, ça. Ça a l'air bien... Puis tu sais, les gars...
C'est pas un gros calibre non plus.
Les gars, ils ont signé pour Harvard. Puis j'oublie l'autre, Minnesota, je pense.
Pas sûr, je me souviens pas non plus.
North Dakota, peu importe. Puis... sauf que c'est dans 2025, 2024. T'sais, c'est pas demain matin. T'sais, les gars, on dit se sont engagés. OK, ils seront pas là l'an prochain. Ben non. T'sais, il faut qu'ils poursuivent un certain stage américain. T'sais, ils décident de passer par là. Donc, c'est vraiment pas... c'est pas cané, comme on dit. Il y a encore du chemin à faire avec les gars suivre leur premier cours universitaire.
Écoute, il y a deux choses. Je pense que c'est deux dossiers très distincts. On va conclure sur ce dossier-là de Veilleux et de Boisvert. Je pense que Yannick l'a expliqué. Là, j'ai entendu dans une entrevue l'autre jour, je me souviens pas où, mais il l'a bien expliqué. Dans le cas de Veilleux, lui, c'est certain qu'il va prendre sa décision au printemps. Donc, il va dire... je vais aux États-Unis ou je vais à Chicoutimi. Donc ça va se conclure là. Et selon ce qu'il va dire, Yannick va à ce moment-là prendre le choix compensatoire, parce que si Xavier Veilleux va aux États-Unis, il va y aller puis il va aller à Harvard. C'est pas mal canné là-dessus. Dans le cas de Boisvert, Yannick a été assez clair. Il ne prendra pas le choix compensatoire à la fin de l'année. Il va lui laisser faire ses deux années USHL. Puis à 18 ans, il a confiance que Boisvert se soit... Puis si jamais, peut-être, voudrait pas jouer à Chicoutimi, ben il va valoir une fortune dans la période des
absolument
transactions.
Ouais, puis c'est un no-brainer, Boisvert. Peu importe.
Il aurait sorti top 5.
C'est
là.
Ça. C'est un choix de première ronde NHL. Je pense que c'est réglé aujourd'hui, alors qu'il y a juste 16 ans. Mais tandis que Veilleux, ben c'est ça. Là, sa progression est importante dans le moment. Puis M18, c'est un des meilleurs défenseurs M18. Il joue contre des gars de 15 ans. Il faut que tu joues là, contre les meilleurs de ton groupe d'âge, finalement, puis même plus vieux, donc junior majeur.
Mais tu sais, ça dépend toujours de l'objectif du jeune aussi. Il y en a qui sont excellents, mais peut-être leur objectif, c'est d'avoir une carrière autre que le hockey aussi. J'imagine que Yannick sait les intentions des deux joueurs aussi.
Là, ben faut que je vous divulgue quelque chose, les gars. Le père de Xavier, je le connais très bien. Hugo Veilleux, j'étais à l'université avec. Je peux vous dire que c'est des gens qui prennent leurs études très au sérieux. Connaissant son père, je pense que si on n'a pas été inquiet de ce côté-là, je pense que leur plan de match est assez bien fait, puis ils vont prendre une décision en fin
de
l'année.
Mais il y a moyen d'avoir des bonnes études au Saguenay.
Ben oui, surtout avec les Sags qui gagnent régulièrement la meilleure organisation au niveau académique, qui s'implique beaucoup avec la fondation des étudiants des Sags.
Joanne Leblanc, conseillère pédagogique depuis de nombreuses années, puis elle a un suivi super serré.
Les choses sont en place pour sécuriser le jeune par rapport à ça.
Tout à fait.
Absolument. Alors, comme je le disais, ça conclut pour les choix de première ronde. En tout cas, moi, j'ai hâte de... Je vais y aller samedi, d'ailleurs. Je pense que Marco risque d'être là aussi.
Absolument.
Moi, j'ai vraiment hâte de voir les jeunes Leroux passer.
C'est ça, là. Je vais pas vous couper, là, mais on a...
c'est là pour ça.
On a malheureusement parlé des gars qui seront pas là. T'sais, c'est plate. Mais faut pas oublier qu'ils ont sélectionné Maxime Massé, troisième au total. Yannick Jean parle d'un mélange de Nicolas Roy et de William Dufault.
Qu'est-ce que je vous ai dit, les gars, moi? William Dufault. C'est la comparaison que j'ai aussi.
Ça va être un excellent joueur.
C'est un excellent joueur, donc.
Puis il a été préféré à Justin Poirier qui a commencé à Bécomo en fin de semaine. Puis avec, il a un tour du chapeau. Là, les partisans, ils disent oh, on va le regretter longtemps. Mais là, un match. Ryan Poehling.
Ryan
Poehling, il est rendu où là?
Avec ses quatre buts.
Score et quatre.
Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis j'ai bien aimé Jérémy Leroux. Je pense que Jérémy Leroux, ça va devenir un favori de la foule là, avant longtemps. Parce que c'est un petit attaquant fougueux, là, super dynamique. Puis il y a un style de jeu agressif. Là, un bon jack, en plus, assez déjeuné. Là, donc, lui aussi, là, il a beaucoup d'espoir. Arrive du prep school. Il a joué à Stansted, ouais. un jeune de Mirabel, mais qui a joué deux saisons, je crois. Je crois que c'est les deux saisons avec Stansted du college. Là, juste ses lignes américaines.
Ouais.
Donc, un jeune homme là, bien emballant. Puis le choix de deuxième round également, Marek Beaudoin. Un petit peu plus effacé, mais je pense que ça peut devenir un joueur super utile. Puis sans oublier le gardien.
Grand gardien, c'est ce que j'allais être en
Chiano, tu penses quoi, Piero. Excellent gardien de but. Athlétique au bout, vous pouvez me permettre. Puis il n'a pas encore gardé les buts. Là. Cependant, il a un 16 ans. Puis il y a Charles-Antoine Lavallée, on pourra y revenir, mais avec un gardien de but de 20 ans, il est dans l'environnement parfait pour se développer. Mais à 16 ans, Ruggiero, il est impressionnant à voir aller. Là, déjà, super mobile, super ouais. athlétique. Une bonne tête de hockey aussi là, également.
Jonathan, tu suis l'équipe beaucoup. Tu as même suivi les matchs du week-end. Sens-tu du leadership? Parce que c'est beau avoir du talent, mais si on ne sent pas du leadership et des jeunes qui veulent aller jusqu'au bout, puis qui travaille fort de match en match. Sens-tu ça de présentement déjà?
Bonne question, Oups. Luc. Ouais, je pense que c'est l'aspect peut-être qui
peut-être
manque.
Peut-être qu'il est tôt un petit peu. Ouais, c'est sûr qu'ils sont jeunes encore. Là,
mais là, il n'y aura pas de capitaine d'ailleurs. Là. Non. J'écrivais ça la semaine passée. Exact. Il n'y aura pas de... Ça va être un groupe de 3 ou 4 assistants.
Un fameux comité.
Oui, un fameux comité. Mais il va aussi avoir une formule employé du mois. Il va avoir un capitaine par mois. Donc, le prochain capitaine là, du mois d'octobre. Fin septembre pour mois d'octobre va être annoncé très bientôt.
C'est-tu le quotidien qui l'annonce en primaire avec sa photo?
Possiblement.
Ou... Possiblement.
Puis c'est ça. Fait que, c'est... Mais il y a des gens qui échangeaient Thomas Bellegarde l'année passée. Puis Loris, Rafano Mezantsova, faut pas oublier, à Shawinigan, là, deux grands leaders de l'équipe qui ont grandi avec les Saguenayens. Mais ils étaient capables d'avoir des choix de première ronde pour eux. Fait qu'ils pouvaient pas laisser passer cette offre-là. Fait qu'ils savaient qu'il allait avoir un petite lacune au niveau du leadership. Ça se fait sentir déjà, je pense, en début de saison, mais en même temps, c'est pas déjà, mais on le voit un petit peu. Mais un leadership, ça se développe.
Penses-tu que c'est pour ça qu'ils ont amené un gars comme Antoine Bibeau comme coach?
C'est un bon point.
Félix, ouais,
Félix Bibeau, excuse-moi.
Possiblement que ça fait partie des options. Ben, oui et non. Je pense que c'est un heureux concours de circonstances, puis ça vient bien à donner, parce que Félix a cogné à la porte de Yannick, puis il a dit ah, ça va être le gars parfait. T'sais, Félix a seulement 23 ans, là, et il a joué en même temps que Raphaël Harvey-Pinard, puis Raphaël essaye de faire sa place avec le Canadien.
J'ai été surpris un peu du choix, puis c'est correct, là, je le connais pas, mais on a Olivier Bouchard qui est pas très vieux non plus comme entraîneur. Je pense que l'entraîneur des gardiens aussi est très jeune. Donc, on n'a pas beaucoup d'expérience en arrière, mis à part Yannick Jean, là, on n'a pas beaucoup d'expérience en arrière du banc. Est-ce qu'on va suivre l'évolution de l'équipe aussi, puis peut-être les jeunes coachs vont prendre aussi
l'expérience?
Sur la page,
c'est quelque chose qu'on avait critiqué ou souligné.
C'est ça.
J'adore le mix, moi, honnêtement. Ouais. Yannick Jean, t'es un vieux routier, ça fait super longtemps qu'il est là. Il est flanqué de deux plus jeunes, donc ça permet d'avoir des nouvelles idées. C'est c'est toujours bon aussi de se renouveler, de se rafraîchir. Félix Bibeau, là, un coach player, ce qu'on appelle, là, il est super proche des joueurs. Il y a pas mal. Ils viennent de la même génération. Donc, non, je pense que ça peut apporter du bon à ce niveau-là. Sauf que le leadership, là, pour revenir à la question de base, ben, il se passe sur la glace. Puis, si Luc, si t'es pas bon en cuisine, je te dis fais-nous un tartare, mais tu sais pas cuisiner. Ben,
pour être surprenant.
Ben oui, mais. Mais si jamais, je veux dire, demain matin, ton tartare, il sera peut-être pas bon, mais dans 3 mois, il va l'être.
Ça se développe. Oui, en effet, oui.
C'est ça que je veux dire.
La prochaine fois que tu viens, je vais t'en faire un tartare. Je vais demander à Daniel Giguère qui est ici.
Il nous en amène un. Mais je suis convaincu que tu es
à la bonne place pour avoir un bon tartare.
Oui, c'est ça.
Mais Yannick l'a bien expliqué d'ailleurs, tu sais, qu'il allait. C'est quelque chose qui peut se développer. Tu sais, on remarque là, des traits de caractère de leadership. Puis je pense qu'ils vont faire en sorte que ça se développe tranquillement.
T'es fait pour ça ou t'es pas fait pour ça.
D'abord.
Tu peux pas dire on va mettre le gars de 19 ans parce que ça fait 3 ans qu'il est là. Hein. Si, c'est pas un capitaine ou un leader dans l'âme.
Qui peut être un mauvais exemple pour les jeunes non plus. Non, on n'a pas d'attente, on s'entend. Ça sera pas facile. Là.
Non, exactement.
En termes de résultats,
ça...
là...
Écoutez, moi, je pense que quand même, au fur et à mesure de la saison, quand on se fie à ce qu'on a vu dans les dernières années, surtout peut-être l'année passée, je pense qu'on avait commencé tranquillement aussi, mais à un moment donné, comme tu disais tantôt, Marco, là, j'allais voir des matchs novembre, décembre, puis l'équipe jouait bien. Je pense que Yannick est bon là-dedans pour commencer tranquillement dans le système, puis amener tout le monde à travailler de belle façon. Alors moi, j'ai confiance que ça va quand même bien aller. Puis juste un petit mot sur le gardien, tantôt tu parlais. Je pense que ceux qui veulent voir le nouveau jeune gardien, Ruggiero, je miserai un 2 sur le match de dimanche. Moi, 2 matchs en 2 jours, on va probablement mettre la vallée samedi dans le match d'ouverture, puis dimanche, on risque de le voir.
Ça ressemble à ça.
Excellent. Ouais. Donc, justement, là maintenant, on va passer à notre deuxième sujet. Bon, il y a eu des matchs, Jonathan, qui ont été disputés en fin de semaine. Donc, une défaite de 1-0 face au Rempart et une défaite de 4-1 face à Sherbrooke. Bon, c'est sûr que c'est deux grosses équipes dans la Ligue junior majeure du Québec cette année. Les Remparts, on se le cache pas. Ça ressemble à la dernière année de Patrick Roy. Je pense qu'on y va le tout pour le tout pour Patrick. Alors, on a une grosse équipe. Oui, il manquait des joueurs du côté des Remparts. Il en manquait quand même quelques-uns chez les Sags aussi. Godet qui n'était pas là. Puis blessure pour Blais.
Blais, Zachary Roy.
Zachary Roy également.
Il manquait des gros morceaux.
Donc, je ne sais pas si tu as visionné les matchs, Jonathan, ou tu as vu des commentaires et tout ça. Qu'est-ce que tu as pu glaner de ça et à quoi on peut s'attendre pour les matchs du week-end qui s'en viennent au Centre Georges Vézina?
Oui, bien, j'ai fait le voyage avec l'équipe pour les deux premières parties à Québec et à Sherbrooke. Puis j'ai pu voir qu'il y avait des belles installations sportives à l'extérieur de la région.
Mais oui, on va faire
une émission spéciale avec ça.
Comment ça se passe? On va te réinviter, Jonathan.
On peut parler du logo aussi, si tu veux.
Oui, exact. On peut tout parler de ça. Ça a commencé timidement pour les Saguenayens. Disons qu'on y va match par match. Surtout à Québec, là, on a senti... En première période, c'était moyen. En deuxième période, c'était pas très bon. Mais en troisième, on a senti qu'ils ont revenu. Mais malheureusement, il était trop tard. Ils ont vraiment pas généré beaucoup d'offensives lors des deux premières périodes. Là, c'était assez difficile. Puis il manquait beaucoup de joueurs chez les Remparts. Il en manquait 7, je crois, qui sont dans un camp professionnel.
Pas les moindres, là.
Non, il n'y a pas les moindres. Puis un bout de temps, je me suis dit pendant le match, par chance qu'ils sont pas là parce que ça serait pas chic ce soir. Mais ça a été quand même difficile à l'attaque. On semblait mélangé, on était peut-être intimidé par le moment.
C'est ça que j'allais dire, l'intimidation, ouais. On veut pas. Tu t'en vas au Colisée Vidéotron.
Puis le gros problème dans Patrick ça, c'est Arroy. Que les meilleurs joueurs ont été les recrues. Les recrues ont été quand même assez solides. Mais les vétérans, 18-19 ans, puis Yannick l'a bien mentionné après le match, ça a été ardu. Puis, tu sais, c'est pas par eux que ça va passer, mais il faut quand même qu'ils mènent la barque là, à une certaine destination, puis ensuite les jeunes ils font le travail, mais ça a été compliqué là. Ça a été compliqué côté vétéran, donc ça revient un petit peu à ce qu'on dit leadership. Le leadership est pas tout à fait. Jello est pas encore pogné.
C'est important ce que tu dis, Jonathan, parce que c'est pas parce que, selon moi, qu'on arrive puis on a des jeunes. Pis on parlait des jeunes tantôt, Baudouin, Massé, là, où on veut y voir. Mais les gars de 18-19 ans là, qui jouent pour les Sags actuellement, c'est important pour eux de connaître une bonne saison parce que, veux pas, quand tu as 18-19 ans, tu es dans une équipe en reconstruction, c'est quoi que tu veux? Tu veux te faire échanger aux fêtes d'un contender? Alors, moi, je pense que ces gars-là, là, ça commence. Puis Yannick en a parlé. Tu le mentionnes bien, Jonathan, il l'a dit suite au match. Là, il y a des gars. Bon, c'est commencé la saison. Là, il y a des gars qu'il va falloir qu'ils se réveillent. Ils n'ont pas fait. C'est Yannick qui l'a dit. Ils n'ont pas scoré du camp d'entraînement. Puis là, ils n'ont rien généré en fin de semaine. À un moment donné, là, si ça continue comme ça, ces gars-là, ils peuvent arriver aux fêtes. Ils ne seront pas échangés. Ils vont retourner chez eux.
Ouais, exactement.
Oui, parce qu'il y en a d'autres des jeunes à rentrer. Là,
oh oui, tout à fait.
Il va y avoir des transactions aussi, Marco.
Absolument.
Oh oui, si on décide de se rajeunir encore un peu plus, pourquoi pas. T'sais. Puis samedi, on l'a vu, il a déjà donné un indice sur sa façon de faire. Les 3-16 ans, Massé, Leroux,
Baudouin
étaient sur les deux premiers trios. En partant, puis un gars comme Fabrice Fortin était sur la quatrième ligne. Un gars de notre région, mais il a commencé sur la quatrième ligne. Donc, tu sais, c'est c'est évident que si les vétérans d'un petit peu plus vieux, 18, 19 ans, ils font pas le boulot, ben ils vont jouer moins, ça c'est sûr et certain, parce que à talent égal, tu vas faire jouer ton jeune, là, c'est sûr et certain. Donc, pour poursuivre là, sur le bilan un petit peu, samedi, ça a été mieux. Puis les Saguenay ont perdu 4-1, mais il restait 10 minutes dans le match, puis c'était encore 2-1. Donc, ils ont quand même joué un bon match, mais seulement un but encore. Offensivement, c'est un petit peu plus convaincant. Ils ont eu plusieurs bonnes chances de marquer. Yannick parlait de 7 calculés là, en première période seulement, puis on n'a pas été capable d'enfiler l'aiguille. Donc, ça va peut-être juste en prendre un, surtout pour les jeunes. Jérémy Leroux a joué un fort match. Puis ça va peut-être juste en prendre un là, des fois à cet âge-là, un petit peu le bâton serré, mais là quand ça se met à débouler, ben ça y va, tu sais. Puis c'est ça, ça a été, il y a eu du positif, tu sais. Puis je pense qu'on va parler de progression tout au long de la saison. Ben il y avait déjà eu une certaine progression là entre le match de vendredi puis le match de samedi. Donc puis encore une fois, les jeunes n'ont pas eu l'air fou du tout là. Ça a été bon à l'attaque. On va dire à l'attaque défensivement. Hein.
Tout le monde n'a pas accordé beaucoup de buts. Au moins, faire de la défensive a de l'expérience.
C'est sûr que défensivement, là, si Godet n'est pas là, en partant, ça va être un match difficile.
Oui, exact. Puis il n'y a aucun joueur sans expérience junior majeur en défensive, sauf que c'est pas de la grosse expérience. Il y a plusieurs gars qui sont à leur deuxième saison ou une saison et demie. Donc, c'est ça. Il n'y a personne vraiment. Ça va vraiment, comme tu l'as dit, Marco, là, c'est Marc-André Godet qui va être le leader incontesté de la défensive. Il pourrait d'ailleurs être une bonne monnaie d'échange au fait. Il fait partie des meilleurs défenseurs de la Ligue, là, sans aucun doute. Donc, en tout cas, tout ça pour dire qu'en défense, il y a eu des petites bévues qui ont coûté des buts ou des chances A1.
J'ai l'impression, moi, que les Sags, tu le mentionnais, Jeff, tantôt, là, j'ai vraiment l'impression que les Sags ont... C'est peut-être à cause de la grande glace, là. Mais j'ai l'impression que les Sags ont toujours besoin d'une dizaine de matchs. Peut-être pour que les jeunes comprennent le système. Là, avant, il y avait deux systèmes. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y en a plus nécessairement deux. Fait que moi, j'associais ça au fait que les jeunes doivent assimiler le système sur la grande glace avec les modifications. Puis là, ben en plus, les jeunes, l'équipe est jeune. Mais donc, il va donner du temps.
C'est pas facile. Puis moi, je le dis, ça fait des années, là. Les Saguenayens n'auront pas de championnat sur une grande glace comme ça. C'est trop difficile pour les jeunes, les joueurs de s'adapter.
Avez-vous déjà joué sur cette glace-là?
Oui.
Coach a joué là?
Oui.
Moi, je joue à défense, là.
Oui.
Quand tu sors du net, tu cherches ton allié, moi,
ben, c'est ça.
Il est loin sur un moyen temps.
C'est plate à mort.
Exact, c'est plate, c'est dommage. Puis je pense qu'il va falloir travailler là. On en parlera peut-être d'une prochaine émission parce que les infrastructures
spéciales.
Absolument. Moi, je prône ça. Puis les infrastructures sportives au Saguenay sont, c'est terrible. On fait pitié, on veut attirer des gens. On veut que les jeunes familles restent ici.
On veut convaincre.
On dévie un peu du sujet.
On veut convaincre deux futurs joueurs de la Ligue nationale de venir jouer ici.
Exactement.
Tu mets là sur le bobo, Marco. C'est en plein ça. Tu fais visiter les installations du champ de Georges Vézina à un gars comme Boisvert ou Veilleux. Honnêtement,
aller jouer
là, ouais, tu veux déjà aller dans les antres du centre Georges Vézina, côté local.
C'est parce que là, c'est encore
pas. Ouais, la poutine est bonne, les gars. Là.
Hein?
La poutine est bonne quand même.
Ouais.
C'est bon.
Mais tu sais, je me contenterais une fois par année à l'exposition agricole, puis ça serait correct.
Ça serait bien. Ça doit être bon au slush poppy aussi.
Mais tu sais, on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver dans les installations sportives dans les prochains mois. Prochaine année. Par contre, il faudrait que ça arrive avant 4 ans, parce que si on veut que l'équipe soit dominante, en fait, lors de leur pic, c'est dans 3 ou 4 ans. Moi, je vais aller aider à construire s'ils veulent, ça ne me dérange pas, mais il faut que l'équipe, il faut que l'aréna soit prête d'ici 3 ou 4 ans.
Puis à la fin de la saison, c'est une obligation de la Ligue, la ville ou l'équipe doit changer leur bande, doit mettre des bandes flex, puis doit mettre les bandes des joueurs du même côté, puis les bandes
ça,
des
ça c'est la dernière année, Jonathan,
ouais, c'est
je
la dernière saison.
Là.
Ah ouais, ça a été reporté d'un an à cause de la pandémie. Mais à la fin de la prochaine saison là, les Saguenayens pour le début de la prochaine doivent se conformer.
Ça doit être fait. Ça sera pas fait.
C'est là Julie Dufour semblait dire qu'elle allait peut-être ramener les dimensions normales. Mais là, on fait quoi du patinage de vitesse? Puis là, elle a promis 1,5 million.
Donc, mais t'achèteras pas des nouvelles bandes ici, de toute façon, t'es pour...
Moi, je pense qu'il y a rien qui va arriver dans les deux choses-là. On n'aura pas le choix d'y aller avec une nouvelle installation.
Ben... On en parlait dans notre émission test la semaine passée. Là. Ouais. Tu avais 6 choix dans les 23 premiers que tu pourrais développer puis gagner enfin avec ces choix-là. Malheureusement, là, t'es pogné avec cette glace-là. avec système de jeu hybride, puis on n'y croit pas. Luc, tu y crois
absolument
pas?
Absolument pas, malheureusement, non. Même si Yannick Jean est un bon coach, là, en fait, et pour développer...
Il va falloir que le coach nous sorte son tableau à un moment donné.
Il reste deux
là,
minutes,
là,
mais... le coach, fait que...
Oh, ouais. Non, mais je suis d'accord avec ça, mais d'un autre côté, quand le produit est là, puis la base est là, je pense que... on l'a vu avec la dernière grosse équipe, qu'on a, malheureusement, la pandémie est arrivée. Je pense que le fun était pris dans l'aréna, puis je comprends ce que vous dites, puis moi, je suis le premier à être content, puis à vouloir des infrastructures pour nos jeunes. Surtout, vous pensez à ça pour l'avenir.
Seulement.
Mais... je pense que ça n'empêchera pas l'équipe, selon moi, de se développer.
Il y a ça, par exemple. C'est un bon club, un bon joueur, c'est un bon joueur, c'est capable de bien faire sur toutes les surfaces.
C'est dur pour
les
autres équipes aussi. Là.
J'aime ton revers de la médaille, mais on ne sait pas s'il aurait gagné. Là.
On ne sait pas.
Avec DC, on va parler.
On parle-tu un peu du 50e?
Écoute, on va regarder ça.
Je sais que tu voulais montrer ton livre.
Je vais montrer mon livre. Puis 73, les gars, c'est une grande année.
C'est ton année de
naissance. C'est quand même assez. Il va falloir en reparler. C'est un âge vénérable.
C'est juste pour ça que tu voulais en parler.
C'est un ancien collègue à Jonathan qui l'a écrit, Serge, qui est bien connu dans le milieu sportif aussi.
Je suis rendu aux années 80. Je viens de tourner le coin.
D'ailleurs, Jonathan, votre excellent topo, toi et Serge, pour présenter, c'était excellent.
Chapeau au Saguenay. C'était super bien filmé. Ouais. C'était
Panorama Média. Affaire, là.
Panorama.
Mais Serge, c'est un vrai de vrai. Là, ouais. Petite parenthèse, il est super bon. Le livre est excellent.
C'est
incroyable. Il est bien fait. Il est bien monté. On apprend des choses. Puis, moi, j'ai juste lu le... j'ai lu le début jusqu'à la deuxième, troisième saison. Puis je suis allé tout de suite lire la saison 2019-2020, marquée par la pandémie. Puis on apprend quand même des choses. Serge, il nous a rentrés à l'intérieur de chacune des saisons. Bref, c'est bien fait.
Au départ, mon intention, on en reparlera peut-être, là, c'était pas de le lire au complet. T'sais, je voulais le garder un peu comme une référence, puis finalement, c'est impossible. Exact. C'est impossible de ne pas lire chacune des éditions.
C'est ça. C'est bon signe.
En effet.
Tout à fait.
Hey, excellent, les gars. Écoutez, on va rappeler que, aux gens à la maison, puis moi, d'ailleurs, je vais y assister samedi, assurément. C'est contre Bécomo à 16h. Et dimanche, c'est contre...
Les Voltigeurs de Drummondville.
Donc, ça débute. Je pense que ça va être le fun d'aller encourager notre équipe, d'aller voir les nouveaux jeunes.
Puis les gens qui connaissent pas la Ligue junior majeure du Québec, il y a des équipes que les Sags ne seront pas capables de battre cette année. T'sais, on parlait des remparts tantôt. On peut parler de... En tout cas, on en reviendra, là. Mais les Olympiques, Sherbrooke. En fin de semaine, c'est deux équipes à notre portée. C'est ça, on va avoir deux bons matchs.
Bécomo, on a battu Rimouski deux fois. Drummondville sont peut-être un an ou deux en avance sur le cycle. Ils ont quand même des bons joueurs de 18 ans. Puis l'objectif, ils sont allés chercher quelques vétérans également. L'objectif de Philippe Boucher, le DG là-bas, est de faire un pas en avant. Donc, ils ont du talent. Mais effectivement, c'est sûr qu'en comparaison avec... même avec l'alignement B des remparts et du Phoenix, c'est sûr que ces deux matchs-là qui risquent quand même d'être intéressants. Puis ça donne toujours des bons duels contre Bécomo, par chance, parce qu'on les affronte 10 fois.
Et Bécomo ont un joueur de la région, Félix Gagnon. Je sais pas s'il y en a un autre.
Vincent Collard.
Il y en a deux même.
Deux très bons joueurs
qui sont dans cette
Félix,
équipe-là.
Félix, le fils de mon grand ami Yannick. J'espère qu'il est avec qui t'écoute.
Encore quelqu'un.
Ouais. Ah non, ben écoute.
Non, c'est correct.
Hey, on te remercie énormément, Jonathan. Merci, Jonathan. C'est certain que tu vas être souvent avec nous là, dans les prochaines émissions.
Ben, s'il veut, parce que il vient ici moyennant une bière.
Écoute, parler de hockey avec une bière d'un micro, là, c'est dur de se plaindre.
Le pire.
Ouais.
Alors, merci beaucoup.
Merci à vous autres, les boys.
On se voit au sac, assurément.
Yes, lâchez pas.
Merci.
Merci.
Ben, justement, pour parler un peu de Jonathan, il s'implique beaucoup aussi au niveau du quotidien. Puis il suit beaucoup l'équipe aussi également. Puis je pense que c'est important là pour faire du pouce un peu là-dessus. On parle beaucoup des Saguenay, on a une belle couverture. Puis peut-être dans d'autres villes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est pas comme ça aussi. Puis même nous ici, on en parle. Donc je pense que les médias régionaux font leur travail à ce niveau-là. Jonathan fait un excellent travail aussi. Là, Joanne Saint-Pierre aussi également au quotidien. Donc félicitations à ces deux personnes-là qui mettent toujours en valeur l'équipe régionale.
Ben, tout à fait. Yes. Tout à fait. Alors, ça conclut donc le segment sur les Saguenayens. Et maintenant, on accueille notre ami, on en a parlé un petit peu tantôt, Hugo Montreuil, qui est un étudiant en ATM au Cégep de Jonquière et qui... va couvrir pour nous, si on veut utiliser le mot couvrir, mais va venir collaborer régulièrement au niveau de la Ligue M18 3A, les élites de Jonquière. Bonsoir, Hugo.
Bonsoir à tout le monde. Bonsoir,
Hugo. Hugo va aussi regarder ce qui se passe au niveau des espoirs aussi dans la région, là, voir quel joueur peut se démarquer, nos équipes espoirs aussi, parce que je pense que c'est important d'en parler à ce niveau-là, essayer également.
Absolument. Puis ce qui est le fun, puis ce qui fait changement un petit peu, on parlait des sacs, ça vient toujours de commencer. Du côté des élites, puis même des espoirs, c'est décollé, ça fait quand même un certain temps. Là.
Exact. Les élites ont joué déjà 7 matchs en début de saison. Ils ont une fiche de 4 victoires, 3 défaites. Donc ça va quand même bien là, de leur côté. Si on compare à l'an passé, qui ont une saison difficile avec seulement 10 victoires là, en 39 parties. Donc là, c'est bien parti là, cette saison.
Je pense que c'est un peu inattendu comme début de saison. Il y a une équipe jeune, je pense.
Oui, exact. Là, on a 7 joueurs de 15 ans. Il y a 5 vétérans qui étaient là l'an dernier, qui sont de retour avec l'équipe. Mais vraiment, on est surpris. Je pense les partisans aussi là, au foyer des loisirs. Là, ils sont surprenants, cette équipe-là.
Les matchs hors concours n'avaient pas été faciles non plus. Non. Donc j'avais, pour ma part, pas vraiment d'attente. Moi, je suis surpris là, par le début de saison.
Et qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui se démarque un peu, Hugo, d'un bon début de saison? Parce que oui, les élites, souvent, on a tendance à avoir un bon début de saison. C'est plus difficile par la suite. Donc, est-ce que tu crois ce que tu as vu? Moi, j'ai pas vu de match encore. Mais
moi, ce que j'ai remarqué, c'est en défensive, les défenseurs, ils bloquent des tirs. Ils ont pas peur de se mettre devant la rondelle, de bloquer les lancers, vraiment d'aider les gardiens. Et puis, les attaquants sont là en repli défensif à aider leurs défenseurs. Là, je pense que c'est là qui fait la différence en début de saison. Ce qu'il faut faire attention du côté des élites, c'est les pénalités. On est très indisciplinés. En désavantage, là, l'unité de 4 est à un peu de difficulté en ce moment. Donc, ça va être à Arnaud Dubé, l'entraîneur-chef, en fait, de trouver un équilibre entre la discipline et quand on école des pénalités, justement, de faire le travail en désavantage.
Pis selon toi, vas-y Marco. Selon toi, Hugo, ce que tu as vu, les pénalités, souvent, tu sais, on parle des pénalités d'intensité ou des pénalités où on n'aurait pas lieu. Ce que tu as remarqué, est-ce que c'est plus. Il va plus dans l'intensité. On a fini notre mise en échec un petit peu trop tard. On a une punition rudesse. Ou on accroche parce qu'on patine pas assez. Qu'est-ce que tu as remarqué?
C'est un peu des deux. On est en retard des fois sur les replis défensifs. Donc là, on accroche, on trébuche. Mais il y a aussi l'indiscipline après siffler surtout. Donc, il y a une mêlée devant le filet. On va donner un coup que l'arbitre va voir parce que c'est souvent le deuxième coup que l'arbitre va voir et non le premier. Donc là, c'est là que les pénalités arrivent fréquemment là, chez les élites. Donc, c'est vraiment un mélange des deux. Ça va vraiment à l'entraîneur là, une bonne discipline cette saison là, pour diminuer le tout.
Écoutez, moi, ce que j'aimerais savoir... Moi, je vais vous expliquer un petit peu, moi, les élites.
Tu connais quelqu'un dans l'équipe ou...
Oui, mais c'est pas ça que je veux dire. Les élites, moi, j'aime ça y aller de temps en temps. Tu sais, je vous cache pas que je vais pas 25 fois par hiver, mais j'y vais de temps en temps. J'aime regarder des prospects qui s'en viennent. Ça, j'aime ça. Que ce soit dans les élites ou dans les équipes adverses. Faut pas oublier une chose, les gars. Là. Des fois, on a vu des gars exceptionnels, des joueurs exceptionnels passer à Jonquière devant très peu de gens. Qui sont devenus des vedettes dans la Ligue nationale, que ce soit des Jonathan Huberdeau ou n'importe quoi. Faut pas l'oublier, des fois, le dimanche après-midi à 2h, vous n'avez rien à faire. Là. Vous avez la chance d'aller voir des joueurs qui vont devenir des joueurs exceptionnels. Donc, moi, ce que j'aimerais te poser comme question, Hugo, du côté des élites, tu parlais qu'il y a quand même beaucoup de joueurs de 15 ans, beaucoup de jeunes cette année. Moi, une personne comme moi, qui va là, exemple, la semaine prochaine, quel joueur je devrais surveiller pour la saison qui promet là, pour le prochain repêchage de la Ligue junior majeure du Québec?
Exact. Moi, je vais parler du jeune de 15 ans, Médéric Henrichon, 15 ans, qui a déjà 6 points en 7 matchs. Vraiment impressionnant. C'est un centre. En ce moment, il est le premier centre là, de la formation jonquéroise. Il est impressionnant. Il est rapide. Il a une fluidité de patin. Là. C'est impressionnant de voir ça. Il donne des bonnes mises en échec en plus. Il est impliqué défensivement aussi. Donc, si... Je parlais d'aller voir justement les matchs. C'est un joueur qui a vraiment attiré mon attention jusqu'à maintenant, puis il y a 15 ans. Puis c'est un joueur que le DG a repêché un peu, qu'il a contacté de venir jouer parce que c'est un gars de Magog, proche de Sherbrooke. Donc il a dit, viens jouer avec nous, puis il a accepté. Donc en plus d'avoir 15 ans, c'est un joueur qui est dans la famille de pension en ce moment. Donc c'est un peu c'est difficile en ce moment pour lui de s'adapter aussi à la ville de Saguenay. Toute la région, donc qui est capable de faire ça. Exact. Qui est capable de produire sur la patinoire aussi, c'est assez impressionnant de voir
ça. Est-ce que c'est un gars qui avait été coupé regroupé à Magog, ben, j'imagine.
Ouais, exact. Oui,
mais les régions tellement fortes.
Ouais, les Cantoniers qui ont perdu en finale en prolongation de la Coupe TELUS l'an dernier, donc
année après année.
Mais je sais pas si tu es capable de me répondre, Hugo. Quand les élites vont chercher un joueur de 15 ans à l'extérieur, l'année d'après, est-ce qu'il appartient aux élites ou est-ce qu'il revient à l'équipe qui est du début? Je sais pas si quelqu'un
sait
pas. Capable.
C'est une très bonne question.
Si quelqu'un peut nous répondre sur
en commentaire.
Je pense que c'est aux joueurs parce qu'il appartient pas, c'est pas, t'sais, pas comme la Ligue junior majeure du Québec ou la Ligue nationale. T'sais, il a joué son année avec, mettons, Jonquière. C'est lui qui décide. C'est parce qu'en fait, c'est des inscriptions, c'est les joueurs qui s'inscrivent. T'sais, ils payent quand même pour jouer dans ce niveau-là.
Je pense que le joueur, à la fin de l'année, a le choix de signer où il a joué.
OK. Donc,
si je parle par expérience du junior, là.
Ouais. Mais il n'y a pas de limite?
Non.
Tu sais, les élites pourraient avoir 7 gars de 15 ans d'extérieur comme ça qui viennent.
Cette année, on a 6 joueurs de l'étranger quand même sur 20 joueurs au total. 20 joueurs au total. Quand même.
Mais on jase, OK? Pourquoi qu'on va chercher des gars de 15 ans si on peut pas les avoir l'année d'après? Je sais pas si les gars, on peut répondre. Parce que s'il nous appartient l'année d'ensuite, puis qu'on le développe, on investit de l'argent sur ce jeune-là pour compatiblement peut-être un joueur qu'on pourrait développer de la région. C'est une question que je pose qui est légitime.
Moi, je réponds là, à toute connaissance que j'ai. Là. Je me souviens pas d'un joueur qui a joué pour les élites, qui arrivait de l'extérieur et qui est parti l'année d'après. Là.
Ben, c'est quand même rare, 15 ans.
Je n'ai pas ça parce que j'ai l'impression, moi, qu'il appartient aux élites pour la durée de son séjour immédiat. Mais je peux me tromper.
Ben, Jonathan a la réponse. Il est encore avec nous.
Gabriel Montreuil. Qui? Puis il a tellement aimé la région qu'il est venu jouer universitaire avec les Inuits. C'est le même Gabriel Montreuil.
OK, donc ils ont le choix.
OK.
J'avais pas raison.
Merci, Jonathan.
Merci beaucoup.
C'est sûr que
c'est particulier quand même.
Le jeune qui a été coupé dans son organisation.
Ben, c'est dommage pour les élites. Ils investissent de l'argent puis du temps sur un joueur. Puis rien contre le joueur. Là, je le connais pas. Puis je suis convaincu que ça va être un excellent joueur. Mais il faudrait peut-être la Ligue M18, peut-être se repenche. Puis je le sais qu'on. On a des discussions présentement, là je peux pas en parler présentement, mais on a des discussions sur les joueurs de 15 ans pour l'an prochain. Ça brasse beaucoup parce qu'il y a des organisations qui sont pas nécessairement d'accord avec ce qui se passe présentement. Donc,
Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est sur le nombre?
C'est ça, on en reparlera parce que je veux pas non plus... mais il y a des discussions à ce niveau-là. Mais si les élites le gardent, tant mieux, puis je serais content pour eux parce que c'est eux autres qui le développent.
J'imagine les gars, là, tu sais, que pour que tu gardes des gars de l'extérieur, c'est parce que tu n'avais pas de jeunes de la région qui pouvaient prendre cette chaise-là.
Ben oui, absolument.
Sinon, il aurait développé un jeune de la région parce que tu as peut-être le risque que le jeune reste pas.
Puis c'est surtout qu'on est un peu, comme les Saguenayens, on est un peu en reconstruction du côté des élites parce que l'année dernière, ça n'a pas été facile. Puis cette année, ce sera pas facile, tu sais. Ils vont se qualifier pour les séries, mais. Je pense pas qu'ils vont faire un bon bout. Ben, ça dépend. Ouais. Là. Il est encore tôt dans la saison. Mais justement, on développe des joueurs, on veut les garder, comme les Saguenayens. Et l'année prochaine, on veut avoir encore une meilleure équipe. Ben, c'est la même chose du côté du M18-3A avec la formation d'Arnaud Dubé. Là, on veut progresser avec les mêmes joueurs. On veut trouver un équilibre, une identité avec cette équipe-là.
Ouais, on a-tu d'autres bons jeunes de 15 ans, là, de la région, du moins?
Ben, 15 ans, oui. J'aimerais ça parler du gardien de but Justin Giguère, qui a connu déjà des bons départs là, dans le M18-3A, qui a 2 victoires, 1 défaite. Fait là, qui présente un bon taux d'efficacité devant le filet. Mais à 15 ans, là, c'est comme un peu avec Luciano, avec les Saguenayens à 16 ans. À 15 ans, il faut le faire quand même, être devant le but là, des gars qui ont été repêchés justement dans la LGMQ, qui ont de l'expérience, un bon bagage. Et il fait le travail. Là, il est venu en relève à Émile Pagé là, dans la défaite là, face aux Estacades de Trois-Rivières. Il a tenu le boulot, là, il a fait son travail là, en troisième période. Fait que, c'est un autre joueur à surveiller. Là, un gars de. Je pense que je viens de la région. Je suis pas sûr la place. Je pense que c'est peut-être Alma.
Je pense que son père est dans l'assistance en plus.
C'est
un gars de Jonquière.
Mais c'est un petit gars de Jonquière.
Ouais, exact.
Quel style de gardien que c'est
rapide.
C'est un gardien, un gros bonhomme.
Ouais,
quand même
exact.
Aussi.
Ouais, mais je trouve qu'il se déplace bien. Puis il utilise bien son long bâton aussi devant le filet. C'est important des fois quand il y a la circulation, ben de tasser les joueurs un peu, là, faire de la place. Puis je me mets quand même proche là, la patinoire. Puis au niveau de la communication, on l'entend parler à ses joueurs, ses défenseurs. Hey, il y a un gars là, check-les, tu sais, c'est le goaler, oui, c'est la vision. mais c'est aussi la communication avec ses défenseurs, ses attaquants. C'est ça qui est important au hockey pour un gardien de but, pour aider sa défensive à repérer les joueurs, mettons, s'il y en a un qui est libre dans l'enclave.
Surtout si on passe beaucoup de temps à court d'un homme.
Exact.
C'est le joueur clé, c'est le gars qui a les jambières, comme on dit.
Ouais, exact.
Bon, les gars, je vais mettre mon chapeau de coach. Je pense qu'on peut attribuer le bon début de saison. Arnaud Dubé, on s'entend, ça n'a pas été facile l'année passée.
Non, vraiment pas.
Il n'y avait pas un staff qui était évident non plus. Sébastien Dion n'était pas tout le temps là. Là, Arnaud, je pense qu'il est bien en selle. Fait un bon travail. Sébastien Dion est là à temps plein aussi avec lui. Puis ils ont amené Félix Abraham aussi.
Oui, aussi.
C'est un autre bon jeune.
Puis je voudrais parler aussi de Johan Turgeon, l'entraîneur des gardiens de but, qui a un bon parcours aussi au niveau élite là, ici dans la région, là, au niveau 3A aussi. Vraiment, c'est un gars qui s'implique. Puis je l'ai parlé parce que j'ai joué un peu à Ligue d'ailleurs, un peu l'an dernier avec la Cégep avec lui. Puis c'est vraiment un gars que le hockey, que ça lui tient à cœur. Puis je pense qu'il va faire un travail exceptionnel avec les gardiens de but, Émile Pagé et Justin Giguère, justement, là, qui sont devant la cage de Jonquière.
D'autres joueurs à surveiller, Hugo, que tu as remarqué que si les gens vont pas souvent aux élites, ben, avec tes commentaires, vont pouvoir...
Oui, exact. Ben, Elliott Gaudreau, qui a 3 buts, 3 passes, je pense que... tu parles pour quelqu'un qui ne se connaît pas, là, mais c'est... Moi, je pense que le monde ici, les partisans qui le connaissent, ils savent que c'est un bon joueur quand même. Il est assistant cette année avec... c'est sûr qu'il y a une alternance au niveau des couleurs quand c'est à domicile en défensive, mais c'est un jeune qui a déjà 2 buts en avantage numérique, qu'il n'a pas peur de diriger des rondelles au filet, un peu comme Ovechkin, Matthews, les McDavid, les Drysdale dans la Ligue nationale qui dirigent des rondelles au filet. Donc c'est un gars qui n'a pas peur aussi d'aller devant la circulation. C'est un gros bonhomme qui s'implique, puis il est rapide aussi. Je pense que Jonquière, si je parle de tous les joueurs en général, c'est une équipe qui est très rapide cette année. Puis ben, je pense que c'est la tendance là, en ce moment dans la M18 3A, puis même dans la LHGMQ Ligue nationale, c'est que les joueurs sont très rapides. Puis je pense que c'est ça leur première qualité dans leur formation.
Il va falloir y aller, les gars. Là. La manière qu'Hugo en parle, on doit aller voir les élites.
Oui, vraiment. Surtout, ils sont impressionnants. Là, moi, je m'attendais pas à ce qu'ils soient là en ce moment. 4 victoires, 3 défaites. Ils sont au 3e rang de la division Tyson, là, derrière Lévis et le collège Notre-Dame, là, qui sont probablement la meilleure formation cette année avec les cantonniers de Magog aussi. Là, mais ils sont impressionnants. Puis je m'attendais pas à les voir là. Je sais pas pour vous si... rapidement, si vous les voyez là en début de...
C'est tellement dur à juger.
C'est une ligue qui est très dure à évaluer parce que c'est un recommencement. Tu parlais, oui, ça prend de continuité, mais ça reste une ligue de développement.
Exact.
Ça prend à chaque année, par définition, il y a la moitié des joueurs qui changent au moins, là, généralement. C'est... Là, donc, ça devient difficile de faire des prédictions.
C'est pas pour rien qu'on parle des 15 ans, parce que exact. C'est ça qui nous permet de prédire
l'équipe va aller où la relève. Eux qui seront pour la plupart, à moins qu'il y en a qui se tournent des fois pour les collèges américains, mais la plupart reste une autre année avec, mettons, la formation. Donc, c'est ça qui va être intéressant à surveiller dès l'an prochain, si les jeunes vont rester là, puis si on va être capable de pousser avec eux pour dans la bonne direction, et même surtout des fois quand l'équipe est attirante, ben ça attire des joueurs aussi de d'autres régions qui veulent venir. Moi j'ai le goût d'aller jouer pour Jonquière, des bons joueurs, ça développe bien, je vais aller là. Fait que ça attire aussi des joueurs.
Ben excellent. Écoute, en conclusion, messieurs, pour le dossier des élites, moi j'aimerais savoir je sais pas si c'est encore là, Hugo va être capable de me répondre. Je sais que dans les choses à surveiller dans la saison, il y a des tournois aussi qui se jouent, des challenges. Alors, je sais pas si tu peux peut-être me démêler un petit peu là-dedans.
Oui, exact. Je connais pas les dates exactement, là, mais je sais qu'il y a beaucoup de challenges avec Hockey Québec, Hockey Canada qui vont permettre aux joueurs de se développer, de prouver un peu leur talent, leurs habiletés individuelles. Mais on a vu l'an dernier, le challenge avait lieu ici au Saguenay.
C'est la dernière année cette année d'ailleurs, je crois, en effet, partenariat.
Oui, exact. Pour l'instant, à moins qu'il y en ait
un. Effectivement, parce que je pense que ça va bien puis la Ligue est satisphaite.
Oui, exact.
Ouais.
Je sais que c'était le Phoenix du collège...
Décembre.
14 au 18 décembre.
Okay. Ça va être une date vraiment surveillée pour dans les M18-3 au total. Là. Donc, mettons, l'année passée, je sais que c'est le collège Estable-Londin qui avait gagné le tournoi, qui avait très bien fait, mais les élites aussi avaient quand même bien fait en début d'entrée au tournoi. Là, ça avait bien fait. C'est par la suite on s'est incliné puis on a été éliminé, mais on a quand même bien fait malgré la saison difficile des éclairs. Des éclairs, c'est mon équipe PO, c'est je me suis trompé, les élites de Jonquière.
Les éclairs, j'irai pas, par exemple.
Ouais, non, tu veux pas aller là. Il y a une belle ambiance, mais on n'est pas compétitif vraiment. Là,
le challenge Midget 3A, c'est, je pense que c'est la place dans les tournois, c'est qu'il y a plus de scouts que de spectateurs. Ouais.
Que... Justement, je voyais hier, puis l'année passée, c'est moi qui s'occupais justement des recruteurs, puis il y en avait au-dessus de 50.
Ah, c'est ça.
Je sais que Patrick Roy était là, je l'ai rencontré, là, justement, Boucher, exact, il était là. Donc, c'est, ça l'attire les DG pour eux, puis c'est pour les jeunes, c'est le temps de faire valoir leur talent, leurs habiletés, puis de se faire un jour peut-être repêcher dans la LHMQ un jour.
Ben, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Luc.
Non, très bien.
Alors, Hugo, excellent travail. Merci beaucoup de ta contribution. Yes. On va certainement te recevoir à nouveau dans les prochaines semaines. On va parler, là, comme Luc disait aussi, des espoirs prochainement. On se garde ça pour la prochaine fois. Alors, merci beaucoup de ta belle collaboration, Hugo.
Merci à vous.
Merci, Hugo. On surveille les prochains matchs pour les élites.
Oui, dans le fond, c'est le prochain match, ça va être contre Laval-Montréal, samedi le 1er octobre. Dans le fond, les élites s'en vont sur une série de 4 matchs à l'étranger. Ça va être intéressant de voir ça, parce que là, on sait qu'ils ont joué 7 matchs, 6 à domicile, seulement un match à l'étranger, que ça a été plutôt difficile, justement, contre le Blizzard de Saint-François, qu'on a parlé un peu de Xavier Veilleux, qui connaît une excellente saison jusqu'à maintenant, début là, de 6 passes pour 7 points en 7 matchs, comme défenseur, faut le faire, donc un espoir des Saguenayens, donc ça va être à surveiller. Donc le prochain match, samedi le 1er octobre, face à Laval-Montréal. Là.
Merci Hugo!
Merci à vous,
merci,
Hugo!
Merci pour un bon travail!
Allez, les gars, avant de parler du Canadien, peut-être parler, parce qu'on va terminer avec ça. Je sais pas, il est quelle heure, on veut pas non plus.
Il est 8h30.
Ah, c'est pas si pire. Mais en passant, on a oublié de dire quelque chose. Les gens qui vont vouloir écouter le live va être disponible sur Spotify. Je suis pas très bien bon là-dedans, là. Mais Apple Balado, c'est ça qu'on dit?
Oui, Apple Podcast.
Apple Podcast.
YouTube. On va vous revenir, on va vous confirmer ça. Surveillez nos pages. Ça va être publicisé, ça va être expliqué. Assurément que les podcasts vont être disponibles là, assez rapidement. Alors, ça, c'est très bien. Puis je pense, justement, avant d'aller dans un autre sujet... je pense qu'on voulait parler un petit peu, Mathieu.
Exactement. Ben, le but un petit peu de notre podcast, c'est de faire ressortir des belles histoires au niveau du hockey mineur, hockey élite régional. Et j'ai pas eu à aller chercher trop loin pour trouver l'histoire que je voulais parler aujourd'hui. On parle d'un jeune qui joue cette année dans le M15-3A, qui est anciennement le Bantam Relève, si on veut, là, qui joue pour les Espoirs. C'est un jeune qui a été coupé il y a 2 ans, puis... Je le connais personnellement, le jeune. C'est un jeune qui est très, très dédié à ce qu'il fait, qui est très intense. Cette année, il a été nommé capitaine de son équipe. C'est Charles-Antoine Grenon,
oui.
Qui est le fils d'un de mes bons amis. Mais écoutez, c'est vraiment un très, très bel exemple de persévérance puis de jeune qui veut grimper puis qui veut aller au prochain niveau. Charles-Antoine et son équipe, ils ont 2 victoires, 1 défaite, un match nul à la date, invaincu à leurs 3 derniers matchs, 1 but, 3 passes, un très bon défenseur. Donc, chapeau Charles-Antoine, continue.
Un espoir
good
à
job,
venir.
Oui.
Ben, tu sais, parlant de hockey mineur, là, ben, je parlais justement au président Patrice Filion qu'on va probablement recevoir peut-être dans 2 semaines pour parler un peu du début de saison. Quand même une baisse de 11% d'inscription et ça baisse d'année en année. Je pense qu'on en reparlera aussi parce que Jocelyn Thibault va peut-être venir faire son tour au coin de la saison aussi. Va nous parler un peu de son plan dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années pour aller chercher des joueurs. Des baisses de 11%, c'est difficile. Puis, tu sais, tantôt, quand on parlait d'installation sportive, ben ça en est un exemple concret. C'est qu'on a de moins en moins de glace, on a de moins en moins de belles installations sportives. Donc, ce qui fait en sorte, oui, il y a d'autres choses, on s'entend, mais dans la région, on a une baisse quand même de... Merci beaucoup. On a une baisse de 11%, surtout dans les joueurs un petit peu plus âgés, donc M15 et plus, là. Donc, ça va être à surveiller, puis ça va être un sujet qu'on devra peut-être discuter et approfondir.
Absolument.
Pourquoi qu'on a une baisse? Mais par contre, je le sais que dans la région, on travaille fort pour ramener, justement, merci Oli, Olivier Wood en passant, pour ramener les jeunes, tant les garçons que les filles à jouer. Mais avec, je pense qu'on a des belles initiatives, les gars, puis on va reparler probablement avec Ariane, avec Lucas qui amène une équipe, le cégep, il s'en vient aussi d'autres choses au niveau des cégeps. Il va probablement avoir une autre équipe à Alma, peut-être même deux, peut-être même une dans la région. Donc, on verra. Mais ça s'en vient. Donc, c'est positif pour la région. Je pense que là, c'est le temps qu'on s'organise des belles installations parce qu'il s'en vient des belles choses ici au niveau hockey. Même si on a une baie, je pense qu'on est capable de je pense qu'il faut redonner. C'est un beau sport, en fait.
Ben oui, ben
et,
oui.
Puis c'est pas juste pour... Tu sais, on s'entend, c'est pas juste pour nos jeunes. C'est pour les ligues d'adultes. C'est pour ceux qui veulent faire du patin, patinage artistique. Patinage de vitesse, il y en a plein. Donc, c'est un dossier à suivre, messieurs.
Tout à fait.
Intéressant.
À
fait.
Merci pour l'eau.
Hey, un petit mot sur les marquis rapidement. Inquiétez-vous pas, les fans des marquis. On va parler beaucoup des marquis de la Ligue nord-américaine cette saison aussi. Là, ça vient tout juste de débuter. Il y a eu deux matchs hors concours qui étaient disputés sur la route en fin de semaine dernière. J'ai pas suivi Marco exactement.
Une victoire, une défaite.
C'était à Laval, je crois. Puis,
Laval et Rivière-du-Loup.
Rivière-du-Loup, OK.
Puis j'ai lu, moi, là, dans le quotidien, d'ailleurs, que l'organisation avait séparé les gars disponibles, là, les gars de la région de Montréal, Gatineau, qui ont joué à Laval, puis un autre groupe qui s'est dirigé à Rivière-du-Loup le lendemain, avec les joueurs régionaux qui ont joué à Rivière-du-Loup. J'ai lu dans le journal que les gars régionaux ont très bien fait à Rivière-du-Loup dimanche, samedi, je ne suis pas sûr.
Samedi soir.
Ouais.
On va y revenir.
Pour moi aussi, ça va être important qu'il y ait des joueurs régionaux dans ce club-là. Je pense que
l'organisation fait très bien.
Je ne suis pas inquiet de Bob là-dessus, mais j'ai hâte de voir parce qu'on a plusieurs régionaux qui sont au camp présentement, donc on verra bien. Ça va bien faire qu'on n'en parle pas tout de suite ce soir. Parce qu'il y a des décisions qui vont se prendre dans les prochains jours.
Il va y avoir un match à Jonquière en fin de semaine.
Vendredi soir.
Et par la suite, là, on va assurément avoir Dominique Bolduc avec nous là, rapidement, là, possiblement dans la prochaine émission, pour parler des marquis et de la Ligue nord-américaine.
Puis on parle d'hockey mineur, les gars, de la structure, on parle des élites, de combien de gars de 15 ans, de gars d'extérieur, mais c'est pour ça. Pour qu'on arrive à amener des gars dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est un peu désolant de voir qu'avec les Sags, on n'arrive pas à aligner plus de joueurs régionaux. Puis malheureusement, s'il n'y a pas de gars qui jouent dans la Ligue junior majeure du Québec, il y a le hockey universitaire là, qui va aider, mais il n'y aura pas beaucoup de régionaux avec les marquis à long terme. T'sais, les gars qui sont là, c'est des gars qui étaient au hockey mineur quand je coachais.
En effet.
Tout à fait bien de le mentionner. Alors, on va s'arrêter là-dessus pour ce qui est du volet régional. Alors, également, c'est certain que la Ligue nationale de hockey, le Canadien de Montréal, je pense qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup d'intérêt. On est, nous également, nous quatre, des passionnés du hockey de la Ligue nationale. On suit beaucoup les activités du Canadien. Donc, on va maintenant passer à notre volet Ligue nationale de hockey. Écoutez, par où commencer, les amis, le Canadien? Une saison morte rocambolesque. Le repêchage, des transactions, des sagas de blessures, Carey Price, Weber qui s'en va. Écoute, on pourrait en avoir pour des heures, là, mais je vais commencer peut-être avec Marco. Le camp d'entraînement qui vient de débuter. Écoute, ça a débuté là, il y a quelques jours à peine. Il y avait le camp des recrues.
Pendant que tu me parles, Jeff, je regarde s'il y a un score. J'ai pas vu c'est combien.
On est en plein match.
Je pense que Caulfield est parti pour 40 buts. Je fais des blagues. Moi, Jeff, là, Rock, je suis entièrement d'accord. Quand je me préparais, c'est exactement ce que j'avais en tête comme terme, rocambolesque. Il y a une expression que j'aime à chaque année, là, que les journalistes dans la région de Montréal écrivent, les 12 travaux du DG pendant l'été, tu sais, 12.
Absolument.
Puis là, il y a des années que je...
Pourquoi 12, Marco?
Cette année, il y en avait plus que 12, puis la liste est longue. Là, j'ai commencé à réfléchir, dans cette liste de travaux-là à faire, là, Hughes est rendu à quoi? Puis parlant de Ken Hughes, là, j'aimerais m'excuser à Jeff parce que on a déjà eu un argument sur notre page Facebook par rapport au fait que on n'était pas capable d'amener un DG de l'organisation. Puis je critiquais un peu, peut-être, là, le niveau de français de Ken Hughes. Puis toi, tu me disais, non, Marco, tu sais, la convention, c'est important. Hughes a ses connaissances, énormément de contacts à travers la Ligue nationale. j'aime beaucoup qu'est-ce qu'il fait jusqu'à date. Okay?
Ah, moi, j'étais impressionné. Je pense que oui, je l'avais mentionné, Marco, que ce soit sur la page.
Ah, je m'en rappelle. Sport, ouais, t'étais catégorique. C'était ton choix, je pense.
Ben, par après, oui, mais là, au début, j'étais pas certain. J'avais quand même mes doutes. Suite, peut-être, au début de la première transaction, Tyler Toffoli, oui, j'aimais certains aspects de la transaction, mais là, je suis impressionné. Parce que là, Kent Hughes travaille vraiment à la moderne. Là, ce qu'on a fait dans le dossier Monahan, c'est incroyable. On a profité du fait que le Canadien, on se le cache pas, là, le Canadien, c'est une équipe très riche, beaucoup d'argent. Pas compliqué, les gars. On s'est acheté un joueur de première ronde pour 6 millions de dollars.
En effet.
Alors ça, j'adore ça, moi. Oui. Comme mouvement.
Pour une saison.
Pour une saison.
C'est assez différent de la mentalité qu'on avait avant. Où est-ce qu'on s'attachait au gars?
Oui.
On voulait pas laisser aller du jeune non plus.
C'était beaucoup plus émotif avec Bergevin. On se fera pas de cachette.
Il y a beaucoup d'accolades, disons.
Beaucoup d'accolades. Fait que là, parmi les travaux, là, tu sais, bon... Puis, tu sais... Il y a quelque chose, là, j'avais jamais vu ça, le Canadien terminer 32e, moi, de mon vivant, là. C'est moi le plus vieux autour de la table. Puis, je souhaite ne jamais le revoir. Mais ça amène. Puis, tu sais, imaginez-vous, les gars, le Canadien finit 32e. Puis, c'est l'année que le Canadien repêche premier, évidemment, alors que le repêchage est à Montréal. C'est juste pour en rajouter, là. Puis, le show que ça a. C'est vrai, tu y étais.
Incroyable.
Là. Avec tes polos. Je me demandais si j'allais pas te voir sur le stage.
Mais j'étais avec une gang d'amis, puis après le repêchage, on se promenait dans les rues de Montréal, là, et prendre un petit café, quelque chose. Puis les gens nous arrêtaient sur la rue Sainte-Catherine. Bon repêchage, gros.
Hey, le gars par la bande, c'est le gars par la bande.
Non, ils disaient, vous êtes dans l'organisation. Oui, beau repêchage.
Quand j'ai vu cette photo,
au moins une dizaine de personnes nous ont arrêtés dans la rue pour nous dire. Mais c'était, je vais finir là-dessus, Marco, pas te déranger dans tes 12 travaux parce que ça va être long. C'était incroyable. Quand ils ont nommé le nom de Slafkovský, on va se pratiquer.
Où on va appeler M. Hull?
Je vous dirais que c'était mitigé dans les
espaces. Moi, j'aurais peur qu'il soit hué, là.
Oh, oui! Puis là, on est revenu que là, les gens étaient contents quand il est entré sur l'estrade. Là, les gens ont compris que c'était le bon choix. Puis je pense que le Canadien a volé le show, surtout avant le premier choix, la transaction. La transaction, je peux vous dire, quand Gary Bettman arrive sur l'estrade, sur le lutrin, puis il dit « We have a trade to announce », puis là, il dit « It's Montreal ». En voulant dire, là, tout le monde crie. C'était, en tout cas, en effet, si vous avez la chance d'y retourner...
Je suis quand même surpris de voir que tu suivais ce qui se passait, parce que j'avais, avec le nombre de textos que j'ai eu ce soir-là, j'avais pas l'impression que tu suivais le repêchage. Ben, tu le suivais, mais pas visuellement.
OK, continue, Marco.
OK. Ben, premier travaux, ben là, c'était d'assurer le repêchage, puis par tous les moyens, parce qu'avec le nombre de choix qu'Hughes avait, moi, j'avais vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il ferait. Est-ce qu'il allait remonter? Est-ce qu'il allait repêcher? Le premier choix, tu repêches, là, on s'entend. Bon, mais très impressionnant avec les échanges qui ont été faits aussi. La situation de Price, on s'entend, c'était pas nécessairement dans son contrôle à lui, mais c'était... Puis je suis surpris, moi, de voir ce qui s'est passé, puis je pense que l'organisation est quand même... contente, je mets ça en guillemets, là, d'au moins avoir leur juste pour préparer la saison qui commence, on s'entend. Parce que moi, je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais qu'on commence, que Price travaille pour revenir, puis qu'on doive attendre encore en janvier. C'est ce que je vous avais dit. Moi, je pensais qu'on s'en allait vers ça. Ça sera pas très long. Je vais
pas de problème, Marco.
Les mauvais contrats liquidés.
Gallagher.
Ouais, ben là, le premier, le plus facile, c'était Weber, là. On s'attendait à ça, on l'espérait, Petrie. Je pense qu'il y en avait beaucoup autour de la table qui voulaient qu'il parte.
Ouais, on pensait peut-être que le Canadien allait devoir payer pour se débarrasser de Petrie. Ouais. Quand même pas si mal. Là.
Ouais. Moi, j'étais pas si catégorique, parce qu'on va se parler tantôt de son temps de glace, puis je me demande qui va le prendre. Mauvais contrat liquidé, donc là, le contrat de Weber, c'est quand même, c'est un excellent coup. Ensuite, je m'en... puis, il y a un ancien DG qui nous disait, je sais que c'est dur d'avoir un bon joueur de centre, puis on était faible au centre, puis c'est dur d'aller chercher des centres. Ben là, Hughes est allé en chercher deux en deux mois, puis que tu es capable de rentrer dans l'alignement probablement, tu sais, dès le début de saison avec Dak puis Monahan, puis ce qui est... Ce qui va être intéressant de voir, là, c'est deux gars qui sont peut-être interchangeables à gauche puis au centre. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que Saint-Louis va faire. Le contrat de Saint-Louis, justement, c'était un de ses travaux à compléter. Je m'arrête là. Moi, je pense qu'il est rendu là, là, parce que là, il y a encore des mauvais contrats liquidés. Il n'est pas fini, là.
Ben, justement, Marco, là, tu parles de Martin Saint-Louis. Moi, je vais m'adresser à Mathieu, là. Je vais m'adresser au coach, là. Oui. Là, on se dirige vers une saison difficile, les gars. On ne se le cache pas. Moi, la défensive, personnellement, je me souviens pas d'avoir vu une défensive sur papier aussi faible dans la Ligue nationale. Moi, je ne me rappelle pas avoir vu ça, là. C'est presque digne d'une équipe d'expansion.
Faible, mais jeune.
Ouais. Moi, ce que je veux savoir, Mathieu, un coach, Martin Saint-Louis, cette année, selon moi, il y a tout un défi. On le sait qu'il est dynamique, on le sait que les gars l'aiment, mais c'est quoi la clé là, pour garder tout le monde positif, que tout le monde s'améliore, que l'atmosphère soit bonne cette année?
Premièrement, ils ont été chercher Stéphane Robida à défense.
C'est un bon coup, ça.
Très bon coup.
Ah, mais
oui, il n'y a pas encore beaucoup de preuves de fait.
Il a passé du...
Ouais, mais c'est mieux que du Pee-Wee. Puis Saint-Louis, ça n'a pas été si mauvais. Tu sais, maintenant, les gosses qui veulent...
J'adore Robida, là. J'adore le choix, là. Mais...
Tu sais, les gars, c'est des multimillionnaires. Ils veulent-tu parler à un coach que ça fait 10-12 ans qu'il se promène dans les mineurs puis qu'il monte, mais qui n'a pas d'expérience en ligue? Ou ils veulent y aller avec un gars comme Saint-Louis qui a gagné, qui a toute une historique derrière lui? Robida aussi, là, on se fera pas de cachette. Il a une méchante belle carrière, mais il l'a pas eu facile non plus. T'aimes-tu mieux y aller avec des gars de même ou y aller avec des gars, justement, tu sais...
Ça reste que c'est non conventionnel, les gars. Moi, je suis d'accord avec toi, mais tu regardes ailleurs dans la Ligue nationale, c'est vraiment un coaching staff non conventionnel. On n'a pas d'expérience. Alex Burrows n'a pas d'expérience. Saint-Louis n'a pas d'expérience. Robida n'a pas d'expérience. Letonski a un petit peu d'expérience.
Ça serait partout ailleurs. Toronto, là, ça serait partout. Ça serait comme ça ailleurs. On n'entendrait pas parler et tout le monde serait content.
Mais quand tu parles de pas d'expérience, tu veux dire quoi?
Comme coach. T'sais, là, parce qu'on avait Luke Richardson. Je pense qu'on s'est fait jouer un petit tour back. On est content pour Luke Richardson. Ça fait combien de temps qu'il est dans la ligue? Il a une chance à Chicago. Parfait, l'individu, écoute, a une histoire incroyable. Situation.
Surtout que la dernière équipe qui a coaché, il l'a amené en finale de la Coupe.
Oui, exactement. Donc, je pense que tout le monde est content. Tout le monde est content pour lui. Mais je pense que ça a peut-être un petit peu déjoué les plans. On s'est retrouvé dans le milieu de l'été. Il n'y avait plus grand monde disponible. Pas de critique contre Robida. Je pense que moi aussi, j'aime le parcours qu'il a. Je pense que c'est un gars calme aussi. Mais ça demeure un staff non conventionnel.
Mais vous voulez quoi comme coach? Parce que rendu ce qu'ils sont là, les gars, en tout cas, moi, je pense qu'ils connaissent la game. Les gars sont développés. Il y a à peu près 65 coachs en strade. Il y a 3-4 gars sur le vidéo. Tu sais, rendu là, je pense que ça prend juste quelqu'un qui va
motivateur.
Est-ce que c'est le bon gars à l'instant pour développer des jeunes?
Ben, peut-être que oui, parce que
moi je parle des jeunes.
Ben, au niveau du leadership, surtout.
Tu sais, je critique aucunement le choix. Tu sais, mais c'est étonnant. Puis je me souviens des paroles de Hughes quand il est arrivé, puis quand on l'entendait réfléchir à voix haute sur, tu sais, ça serait quoi l'exemple de coach qu'il recherchait, puis il arrêtait pas de nous le dire qu'il allait regarder en dehors de la boîte. Prend de l'audace, ça.
Son choix était déjà fait, non?
Son choix était probablement fait, puis il travaillait pour le convaincre.
Ben, moi, je comprends ce que vous me dites, les gars. Moi, là, ce que je suis pas d'accord, c'est que, puis vous me dites-moi si je me trompe, là, on est dans le plus haut niveau au monde. On est dans la Ligue nationale de hockey. OK? T'arrives, là, tu t'en vas jouer à Boston, là. Martin Saint-Louis, là, papy, il a de l'expérience un petit peu. Il arrive à Boston, c'est Bruce Cassidy, l'autre bord. Le gars, là, ça fait 25 ans qu'il coach les mineurs. C'est des tops, les petits détails. Là, cette année, on est d'accord, on n'est pas là pour gagner.
C'est ça
que
je partais pour dire. Pour 2-3 ans, il va s'adapter.
À un moment donné, là, ça va être le temps, tu sais. Puis, t'arrives à Toronto, c'est Sheldon Keefe. T'arrives, tu sais, quand tu joues contre des coachs d'expérience, Daryl Sutter à Calgary, etc. Alors, moi, c'est là que j'ai un petit peu de misère là-dessus. Pour cette année, oui, c'est drôle. Mais après un an encore, là, parce qu'on s'entend qu'on va finir top 5 encore dans
le On va être dans le boulier.
Mais à partir de l'année prochaine, je pense que la pression va monter.
C'est peut-être transitoire aussi, Jeff. Il y a peut-être plus que ce qu'on connaît. Tu sais, Saint-Louis, y a-tu des aspirations pour être assistant DG avec le Cavalier, après ça, aller chercher un coach d'expérience quand l'équipe va être rendu au bon moment.
Pas sûr qu'il est venu à Montréal. Ouais.
Non, je pense que le gars, il est passionné quand il parle.
Oui, ouais, mais rester dans l'organisation quand même, pas nécessairement au niveau de coach en chef. T'sais.
Mais on a déjà eu cette discussion-là, les gars, sur la page, là, puis par rapport au fait que c'est la Ligue nationale, là, c'est pas une ligue de développement. Puis je trouvais ça drôle, là, après ses premiers matchs, quand il nous expliquait qu'il trouvait ça vite, puis que là, sur le banc... L'année passée, c'était drôle.
Moi, je vais vous dire une chose. Le camp d'entraînement, là, c'est le fun. Là, on est arrivé. Tout le monde est de bonne humeur. On a des jeunes. Hop,
on a beaucoup. On a tellement de jeunes qu'on a 74 gars. Okay?
Ben oui, ben c'est, ce sera pas long. Il va en rester 30. Là. Goulet, hey, ça va être bon. Mais attendez, mais quand ça va commencer? Là? Puis là, il va arriver le Martin Saint-Louis, là, puis la game. Là, c'est 3-0 l'autre bord. Là. Puis il sait que ces gars ne suivent pas en arrière. Là. Pas sûr que ça va être aussi drôle à ce moment-là. Moi, je vous fais une prédiction, les gars.
Thomas, t'enregistres ça?
D'ici la fin du camp d'entraînement, il va y avoir du ballotage.
Absolument.
Je suis convaincu que le Canadien va repêcher un et même deux défenseurs au ballotage. Ben, des gars d'expérience.
C'est clair et net.
La prédiction, je la partage aussi.
OK.
On n'a pas le choix.
On peut pas commencer de même.
Parce que c'est quand même une business aussi. Là. Oui, le Canadien, moi, je pense que même si on n'ira peut-être pas chercher autant de victoires, ben, on va être excitant à voir jouer. Il y a des bons jeunes. Là, Caulfield, Suzuki.
Oui. Ça fait des années qu'on voulait qu'il le fasse. On voulait qu'il le fasse. C'est partagé.
Toutes les équipes, c'est un passage obligé, comme dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Faut que tu perdes pour gagner.
Tantôt, tu parlais que c'était une saison épouvantable du Canadien l'année passée. Ce que j'aime, comme tu dis, cette année, dans le temps de Trevor Linden à Montréal, là, on n'était pas fort aussi, mais on n'avait rien. On n'avait pas de jeunes. On n'avait rien.
Ouais.
Là, au moins,
on a une liste de jeunes, autant à l'attaque qu'à la défense. Puis oui, il faut prendre le temps. On parle du Canadien là, mais on parlait des Sacs tantôt. Il faut prendre le temps de regarder les jeunes se développer. Puis il faut faire le processus. On n'a pas le choix. Faut que les gens soient patients. Là. J'ai hâte de voir à Montréal. Mais moi, je pense qu'à l'attaque, ça va être vraiment excitant. Il y a beaucoup de combinaisons possibles. J'ai hâte de voir ce que Saint-Louis va faire.
À l'attaque, là, le power play va être excitant.
Vraiment. Mais c'est ça. C'est défensivement. Je suis persuadé. Il y a des joueurs en trop. Là. On les nommera pas tous. On les connaît. Est-ce qu'on va être capable de passer un de ces gars-là? Mais c'est des gars qui ont... La beauté de la chose, là, le Canadien a facilement comme 4 attaquants disponibles en trop. Puis c'est tous des gars qui ont de la valeur. Puis ça, c'est intéressant. Là, qu'on parle de Dadonov, de Dvorak.
Peut-être pas maintenant, mais peut-être plus la saison.
À date limite, oui.
Certains clubs, parce que surtout au niveau des masses salariales.
Mais là, il faut que tu arrives à faire produire, par contre, là, pour garder leur valeur.
Ben, ils vont du temps de glace, ça, c'est certain.
Ça, c'est sûr.
Absolument.
Puis en terminant,
il reste deux minutes, peut-être.
Les gardiens de but, comment vous voyez ça, les gars? Duo, ça va être Montembeau et puis Jake Allen, en espérant que Jake Allen reste en santé.
Bah, ça va finir par une alternance entre Primo et Montembeau, probablement, avec des blessures. Moi, à défense, Primo. Je m'attends à une rotation. Je m'attends qu'à la défense, tu as un gars qui descend en bas une dizaine de matchs, puis l'autre monte, parce qu'il y a plusieurs gars qui cognent à la porte. Puis je pense qu'il faut que ces gars-là s'améliorent. Dans les nets, là, c'est sûr que ça va être Montembeau. Je suis content pour l'équipe. Moi, j'ai adoré ce qu'il a fait l'année passée.
Québécois,
est-ce que c'est vraiment un deuxième gardien? On va voir. J'ai trouvé l'année passée, il s'est vraiment amélioré.
Il va être en santé, il avait une blessure.
Mais pour cette année, là, c'est correct. Puis, tu sais, on aura une boule dans le boulier, puis c'est parfait.
Ah, on a une question? Oui. C'est-tu ça qui l'a écrit, Oli? OK, ouf. Au moins, il y a du monde qui
parle. Alors, on va répondre à une question du public.
Ali, viens donc ici, ça te dérange pas. On va donner le micro à Ali.
Parfait, excellent. Donc, on a une question de Daniel Paradis.
Daniel, pourtant, connaît pas le hockey du tout.
Non. Salutations, Daniel.
Oui. Alors, donc, Daniel Paradis nous demande, vous demande plutôt, si Owen Beck pourrait créer une surprise à la Patrice Bergeron cette année et se tailler une place dans le club avec les Canadiens.
Merci à Daniel pour la question. Ouais. Ça en est une bonne.
Je pense que s'il y a une année pour créer une surprise... C'est cette année.
Mais pas au centre.
Ben, pas au centre.
Ben, je pense qu'il peut jouer ailleurs. Là. Non?
Ben, écoutez, moi, je pense, pour répondre à Daniel, moi, je pense pas. Pense. Mais par contre, je peux vous dire que là, il fait ouvrir des yeux, là, beaucoup, là, Owen Beck, autant dans le tournoi des recrues que là, dans les matchs bleu contre blanc en fin de semaine. Je pense qu'il a surpris bien les gens. C'est un gars qui est responsable. Je vois ce que Daniel veut dire. Un gars two-way, comme Patrice Bergeron. Alors, sait-on jamais, mais moi, je dirais que non, mais sait-on jamais.
Les matchs blanc-rouge, oui. Là, en fin de semaine, c'était pas des matchs de la Ligue nationale.
Non, effectivement.
Hein? Je sais pas si le ton, les vétérans vont finir par donner le ton, puis on verra. Mais...
16 000 personnes pour des matchs blanc-rouge.
Quand même quelque chose.
Ils l'ont quand même placé avec Coughlin et Hoffman.
Oui, en effet. Ouais. Mais moi, je pense qu'il s'il n'a pas sa place, il va avoir sa chance, par exemple. Je pense qu'on va essayer d'y donner le maximum possible de temps de glace, tant peut-être au niveau des matchs en concours, qu'on va peut-être le garder en début de saison, on verra, parce qu'on a un essai de 10 matchs aussi. On peut y aller sans qu'il perde, je pense, son année. Je ne sais pas si Jeff, tu peux répondre.
Oui, c'est maximum 9 matchs.
C'est
pas
ça, exact. C'est du 10e match, on comptera en bas.
C'est-à-dire que tu brûles une année de contrat pro. Ça. Mais ça t'empêche pas de le retourner.
Non, exact.
Là, mais
tu sais, on va le voir dans les prochains matchs. Là. Plus ça va avancer, plus les équipes vont mettre des gars de la Ligue nationale dans les matchs. Là, ça. Mais pour l'instant, effectivement, comme Daniel dit, surprenant.
Bon, ben c'est excellent. Je pense que on va s'arrêter là pour ce soir.
Ben, 1h25, c'est quand même bien. C'est le maximum.
C'est pas mal le maximum. Ouais. On veut pas faire ça trop long non plus, mais c'est sûr que le premier show, on avait quand même plusieurs choses à jaser. Vous présentez ça de la meilleure des façons possibles, nos collaborateurs, etc. Alors, ça va être tout pour cette semaine.
Merci au gars
en arrière. Merci beaucoup, oui, effectivement, Luc. Autant avec Oli qui s'occupe des réseaux sociaux, qui nous donne des signaux, et à notre ami, évidemment, Thomas-Xavier Bolduc. Qui
merci,
fait un
Thomas.
Travail extraordinaire à la technique. Alors, merci à Thomas. Merci à toute l'équipe de La Voix Maltais.
Les gens en place aussi.
Les gens
sont
sur place également qui sont là. Les gens à la maison. Alors, on va vous surveiller nos pages. On va vous expliquer ça pour ce qui est de la suite des choses, pour que les émissions soient téléchargeables, etc.
Merci à Jonathan et Hugo aussi pour leur participation. On va sûrement les revoir... bientôt, hein, ça c'est certain.
Tout à fait.
On est censé se voir aux deux semaines, mais surveillez la page, hein, parce que si jamais il y avait une contrainte d'horaire, ça peut changer.
Il y a d'autres annonces qui peuvent arriver, des collaborations, ça on travaille là-dessus aussi.
Absolument.
Pour avoir peut-être plus de visibilité aussi. Là.
Comme Marco disait, quand Dieu vous a des chantiers, ben Luc a des chantiers aussi.
Les 12 travaux de Luc.
OK.
Avec Luc, on sait que ça n'arrête jamais. Non. Hein, il y a toujours un ordi qui tourne.
Oui.
Excellent.
Ça n'arrête jamais sur Messenger.
Merci Jeff. Excellent travail.
Merci à l'animateur, Jeff, aussi. Excellent travail.
Merci, monsieur le commissaire.
Merci, Matt.
Dans deux semaines?
Oui, on s'en va dans deux semaines, tout le monde. Par la bande, c'était une première. Merci beaucoup d'avoir été là. On s'en reparle très bientôt.
Good. Good job, Jeff.
Oui.
Salut, mon Jeff.
Bah, comme là. Merci, mon gars. Comme l'audio deuxième.